Bonjour et bienvenue à la Rollistory. Ce mois-ci, on vous propose un podcast qui est une adaptation du jeu Outer Space de Anthony Combrexel, alias Inno. Donc c'est un jeu qui se passe dans l'espace et qui est en fait normalement fait pour faire une grande campagne où on fait plein de choses et on va essayer de relever le défi de faire tout ça en un one-shot. Autour de la table, aujourd'hui, on a 7 participants, donc 6 joueurs.
Julien,
Charline,
Théo,
Sam,
Camille
et Johan.
Et je suis Pierre, le meneur de jeu. Donc comme système, on va pas utiliser le système fourni avec le jeu, on va utiliser un système maison qui s'appelle 3 façons de mourir. Donc il y a la particularité d'avoir 3 jauges de vie, entre guillemets, et donc 3 fois plus de bonheur pour un MJ, car ça permet de mettre bien la pression sur les joueurs. On va voir comment ils s'en sortent. Pour jouer à Outer Space, j'ai demandé aux joueurs d'interpréter des personnages les plus divers possibles, qui viennent de tout continent, tous horizons, toute culture. Et du coup, on se retrouve avec un panel représentatif de l'humanité, de toute sa diversité, aussi de sa médiocrité. Vous verrez des racistes, des méchants, mais aussi des gens gentils, mais des humains avant tout, avec leurs contradictions et leurs faiblesses. Nous sommes sur Terre, un samedi soir habituel, et nos personnages vaquent tous à leurs occupations. On va commencer par le personnage de Camille.
Oui.
Camille, comment s'appelle ton perso ?
Kolkewanka.
Kolkewanka. En deux mots...
Kolkewanka. Mais c'est Kolke pour les intimes, mais on n'est pas intimes, pour l'instant on ne se connaît pas.
Ok. Kolkewanka, quand les gens te voient dans la rue, c'est quoi la première impression que tu fais ? Tu ressembles à quoi et...
Je suis une jeune femme de 35 ans, originaire du Chili. Donc je vis à Cusco, au Pérou, actuellement. Donc il y a de grandes chances que je me balade dans la rue à Cusco. Je mesure 1m70, je fais du sport et je fais beaucoup d'activités physiques, donc je suis plutôt bien foutue. Je suis brune, cheveux longs.
Ok, donc, cool. Et du coup, comment tu gagnes ta vie ?
Ouais, je suis guide, en fait. J'organise des visites guidées sur tous les sites Inca de la région aux alentours de Cusco. Okay. Et notamment, j'organise aussi des petites treks en montagne pour aller découvrir les sites Inca, style le Machu Picchu, Huayna Picchu, okay, etc.
Et bien, c'est justement là où on va te retrouver. Tu es en sortie dans les Andes. Et il se trouve qu'en fait, t'as jamais pris autant de risques. C'est la première fois que tu fais une sortie aussi risquée. Autant en altitude et autant dangereuse.
Très bien.
Tu penses à un lieu ou pas ? Enfin, c'est pas obligé, hein, si t'en as pas.
Bah, c'est les treks des Incas au départ de Cusco. Donc,
elle a pas révisé.
Non, non, ouais, bah, ça, genre.
C'est pas grave, c'est pas bon, c'est au cas où t'en avais.
Winnie Waina.
C'est un vrai nom ?
C'est un vrai nom.
Tu peux googler.
C'est un vrai nom, mais c'est pas dangereux. Mais nous, on prend un chemin hyper dangereux pour y aller.
On prend un chemin super dangereux. Ah, ok. En fait, toi, t'étais pas trop chaude au début, mais y a un groupe de touristes hyper friqués, américains.
Très bien.
Et vraiment, t'as pas pu refuser. Donc, c'est une sortie un petit peu dangereuse. Et pendant tout le trajet, t'as pas arrêté. En fait, c'est une famille un peu bof, tu vois, d'américains. Donc, il y a la mère, le père et deux enfants, deux garçons.
Et tout ce que je déteste, en fait.
Oui, toi, tu détestes ça.
Oui.
Et en fait, ils sont super turbulents, ils arrêtent pas de jouer, ils écoutent pas tes consignes, tu as répété 10 fois, faites attention, agrippez-vous là, vérifiez vos mousquetons et tout. Ils écoutent
et
pas.
Et ils s'hydratent pas, ils ont bu de la bière.
Ils ont
de l'altitude, ces connards.
Ben voilà.
Mais oui, je leur ai dit.
Typique.
Ils prennent des selfies.
C'est ça. Et ben, ça a pas loupé. Au bout d'un moment, ils font une connerie et ils se retrouvent dans une crevasse. Donc en fait, ils jouaient et il y a un des garçons qui se retrouve, genre il glisse, petit éboulement de terrain, Et là, il est en équilibre instable, il tient juste avec une jambe et un bras, et il est au bord du ravin, quoi.
Ok.
Est-ce que tu les engueules, déjà?
Je l'engueule, j'éloigne la famille. Non, donc, je file mon toki au père en lui disant d'appeler les secours, et après, j'ai mon sac de guide avec les cordes. Il est pas en train de tomber.
Il est... Enfin, en gros, il se tient, mais tu sens qu'il va pas tenir longtemps, là.
Ok, donc j'ai mon sac de guide avec les cordes. Ouais. Je m'équipe, je mets okay. un harnais.
Ok, alors déjà, le premier problème, c'est que t'essayes de mettre en place ton harnais et tout, mais en fait, t'as son frère qui panique. Et en fait, il gêne ton travail, il t'écoute pas, il essaie de rattraper son frère, mais en fait, c'est contre-productif, il le met en danger, là.
Ah non, je les éloigne, je leur dis de se foutre sur le côté, de plus rien faire, d'attendre, okay. juste de téléphoner, d'appeler les secours.
D'accord, ok. Bon, tu vas lancer un jet pour voir si t'arrives à faire autorité et pour voir s'il va t'écouter.
Ouais.
Donc, tu as atteint...
Je fais ça depuis des années, donc...
Bah ouais, donc t'as ton bonus de guide, on va dire. Ouais,
super.
Tu as 6 de base, et t'as combien en bonus de guide?
3.
Et plus social ou moins social?
Social, j'ai 1. 10.
Donc 10 pile poil, ouf. Ok, donc grâce à la fois ton talent inné et ton expérience de guide, t'arrives à le calmer. Donc il va te laisser tranquille et tu vas pouvoir faire ton travail comme il faut. Donc tu vas faire un nouveau jet, maintenant très technique, pour voir si t'arrives à faire le bon cordage et à le mettre en sécurité.
Ouais, c'est bon,
et...
11. Ok, c'est bon. T'aurais eu un malus si t'avais pas calmé l'autre.
Très bien.
Ok, donc là, t'arrives à faire ton travail, les gens sont calmes, et ça va. Ton sang-froid, boum, tu le retires. Et alors que, bon, tu vois que t'as la mère qui te calcule même pas, elle te dit même pas merci, elle se jette sur son fils et tout. Et bon, ils sont contents, ils pleurent un peu et tout ça, mais t'es contente. Et là où tu te dis, bon, bah, c'est super, mais bon, faudrait reprendre le boulot. Un flash aveuglant. Tu vois plus rien, et la famille te voit disparaître. Et on va passer à quelqu'un d'autre. Maintenant, on va retrouver Théo Team. Théo.
Salut. je présente rapidement mon personnage.
Ben pareil, alors qu'est-ce qu'on voit de l'extérieur en fait, quand on te connaît pas, et qu'est-ce que tu dégages, quelle physique tu as?
Ben écoute, moi je suis originaire de Syrie, donc je suis plutôt un petit peu bronzé, j'ai les cheveux bouclés, noirs, etc. Je suis plutôt fin, assez grand, on va dire que je fais 1m85, quelque chose comme ça. J'ai pas vraiment de signes distinctifs très marquants, au sens où il m'est arrivé plein de trucs depuis mon voyage depuis la Syrie, et j'ai pas grand chose de reconnaissable. Je suis un peu monsieur tout le monde, je me balade dans la rue, j'ai des petites lunettes que je mets seulement pour travailler en général, mais à part ça j'ai pas spécialement de signes très distinctifs.
Ok, alors on est samedi soir et on te retrouve dans un amphithéâtre où tu donnes une conférence. Donc ta spécialité, c'est la statistique, c'est ça?
C'est ça, exactement. Ouais.
Est-ce que t'as un thème plus précis ou...
En gros, ma thèse, elle portait essentiellement sur les statistiques appliquées, mais dans un contexte de réflexion sur comment elles peuvent être utilisées pour manier un peu certaines décisions politiques, etc. C'est plus des statistiques appliquées à la science politique.
Ok, cool. Eh ben, c'est le sujet à ton avis de ta conférence du coup?
Oui, alors après voilà, j'ai d'autres compétences, etc. Je travaille aussi sur les séries temporelles et tout ça, donc ça peut être utile. Mais là, effectivement, c'est plus une conférence qui traite justement des statistiques des réfugiés en Europe.
Ok. Donc tu fais ta conférence, l'amphithéâtre est à moitié rempli, ce qui est pas mal hein, pour une conférence de statistiques, t'es plutôt fier de toi.
Bon, ouais. Quand il y a 5 personnes, ça suffit.
Ouais. Ah ouais, t'es dans quel pays?
Je suis arrivé en Angleterre, j'ai réussi à trouver un poste de maître de conf à l'université de Warwick.
Ouais.
Et donc après un long périple qui fait partie de mon histoire, on va dire, qui m'a pas mal marqué. J'ai réussi à atteindre l'Angleterre et finalement à atterrir à Warwick.
Ok, donc tu finis ta conférence à l'université de Warwick, les gens, t'as eu un bon accueil, petite session de questions-réponses, t'as l'impression que les gens étaient intéressés, c'est cool, t'es content de toi.
Ça s'est bien passé. Ouais.
Ça s'est bien passé. Tu sors de l'amphithéâtre, tu vois que l'amphithéâtre se vide, les gens partent, toi t'as l'habitude de rester un peu bavardé avec les derniers, et tu vois qu'il y a une dame qui attend. Elle attend depuis un moment, bon ça t'intrigue. Au bout d'un moment, tout le monde part, et il reste plus que elle et toi. C'est une dame un petit peu âgée, elle a une soixantaine d'années. Elle a l'air de te regarder.
Est-ce qu'elle me fait un signe particulier? Est-ce qu'elle a l'air d'avoir envie de discuter?
T'as l'impression qu'elle est très hésitante.
D'accord. Mais écoute, moi je me dis qu'elle a sûrement des questions qui ont trait à la conférence, donc je la vois, elle est hésitante, j'hésite pas. Ça fait partie en plus des caractéristiques de mon personnage, c'est que je suis plutôt quelqu'un de sociable, etc. Donc j'hésite pas à aller à sa rencontre et je lui demande si la conférence lui a plu déjà en premier lieu.
Il y a quelque chose qui se passe, t'as un doute dans ton esprit. T'as l'impression que tu l'as déjà vu, mais tu saurais pas dire.
Elle me rappelle quelque chose, c'est ça?
Elle te rappelle quelqu'un, mais tu saurais pas dire. Et elle t'interpelle, Issam.
C'est vrai que j'ai l'impression effectivement que je l'ai croisé quelque part, mais c'est assez trouble dans mon souvenir, etc. Je lui dis oui, est-ce qu'on se connaît? Est-ce qu'on s'est déjà vu quelque part?
Elle dit comme tu as grandi.
Ça commence à remonter petit à petit. Je commence à me dire quelque chose. Et effectivement, je commence à reconnaître ces traits qui sont effectivement ceux de ma mère.
Ouais, ça fait... T'avais 6 ans quand elle est partie.
Ouais, tout à fait.
Et effectivement...
Il va pleurer. Elle est en mode de... Il est trop dans son perso.
Elle te dit regarde comme tu as grandi, t'es un professeur respectable maintenant, regarde le monde que t'arrives à faire déplacer, je suis très très fier de toi.
Effectivement, je fonds en larmes là, sur le coup, c'est ouais. Très émouvant.
Ouais. Ok, ben on va pas faire toute la conversation, ouais. Mais en résumé, en fait, qu'est-ce que tu lui poses comme question? Est-ce que juste tu parles de manière légère ou tu as des choses plus profondes?
En fait, ça fait tellement longtemps, du coup, moi j'ai un peu plus que 30 ans à l'heure où on parle, donc ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu, il y a tellement de choses à dire, etc., sur ma vie en Syrie, après sur le voyage, etc. Je sais pas par où commencer, ça commence par des petites conversations anodines, qu'est-ce que tu fais ces derniers jours, etc. C'est plutôt comme ça que ça commence. Là.
Ok. Est-ce que tu poses des questions plus sérieuses au bout d'un moment? Ou tu préfères rester là, que ça reste léger, quoi?
Au fil de la conversation, c'est vrai que l'envie de savoir, parce que quand elle est partie de la maison, elle est partie vraiment du jour au lendemain, enfin, c'est-à-dire qu'elle a quitté la maison une nuit, on ne l'a plus jamais revue. Ouais. Elle a gardé quelques liens avec mon père, etc. Mais moi, la question me brûle de lui demander, mais pourquoi d'un coup et pourquoi si rapidement? Et est-ce qu'elle a pensé à moi et de mon frère quand elle est partie?
Elle te dit que maintenant t'as l'âge de comprendre, donc c'est vrai quand elle est partie t'étais beaucoup trop jeune, elle voulait pas te parler de tout ça. Elle s'excuse, elle dit j'étais infidèle en fait avec ton père, c'est vrai que j'allais voir ailleurs.
Carba.
On n'était pas heureux, c'était un homme bien, enfin c'est ce que je pensais. Mais tu te souviens de notre dernière dispute avant que je parte vraiment? C'était très violent.
Ouais, c'est assez trouble dans mes souvenirs. Je me rappelle que ça criait fort. Ouais.
Ça criait fort et t'as pas vu toute la scène. On a essayé de vous protéger, mais en fait, il en est venu aux mains, en fait. Et j'ai pas supporté.
Donc, ouais, pour moi, là, c'est un choc, effectivement, parce que...
T'idolâtes vachement ton père.
Mon père est quand même un symbole dans ma vie, etc. Il m'a appris plein de trucs et tout. Et ouais. C'est vrai qu'au début, j'ai un peu de mal à le croire, puis finalement, c'est vrai... Enfin, je me laisse porter par ses explications et ça me touche beaucoup.
Bah ouais, donc t'apprends qu'en vrai, ça, elle a pas supporté, elle a décidé de partir, retourner en Amérique, puisqu'elle venait d'Amérique. Ouais. Et elle a refait sa vie là-bas. C'est vrai qu'elle a préféré en fait couper contact pour pas qu'il. S'est dit que ça serait plus simple pour vous en fait. Et après, quand elle a voulu reprendre contact, c'était très difficile puisque toi, t'as eu beaucoup de choses qui te sont arrivées.
Oui.
Elle te dit une dernière chose. Elle te dit j'ai retrouvé ta famille. Ils sont aux États-Unis avec moi.
Là, c'est difficile d'aligner trois mots parce que.
Ouais.
J'ai du mal à faire autre chose que être en larmes. Quoi, tout ça. Ouais.
Lance un G, on va voir à quel point tu craques. Mais.
Le mec, il commence à expliquer.
On va dire c'est un G social et tu mets ton malus en. Puisque t'es dépressif, c'est ça?
Ouais, dépressif chronique. J'ai par contre plus un en social.
Donc tu fais le total plus un et.
Je suis à 12, plus un 13, moins 2, 11.
11, donc c'est quand même. Enfin non, j'avais mis une difficulté de 13 parce que je me suis dit c'est quand même une expérience très, ouais. Très violente. Du coup, tu fonds vraiment en larmes et elle essaie de te consoler, mais t'es inconsolable en tout cas. Et elle te dit.
T'arrives pas à parler.
Et alors qu'elle te dit qu'il va, enfin qu'elle te laisse le choix de venir rejoindre ta famille ou pas, mais en tout cas elle te dit eux pourront pas venir parce que c'est trop compliqué pour l'immigration et tout ça. Donc à ce moment, un flash aveuglant et ta mère voit son fils qu'elle venait à peine de retrouver disparaître. Autour de notre petit Johan.
Oui.
Johan.
Oui.
Que joues-tu?
On m'appelle Madame Olga.
Oh.
Donc, comment les gens me voient déjà physiquement? Alors, je suis une grande brune, avec des jambes interminables. Je suis une beauté froide, typique des femmes de l'Est.
Il y a de la concurrence pour Camille, là.
Ah, mais moi, je suis sud-américaine, donc...
Ah, bah, il y en a pour tous les goûts.
La péruvienne, là, c'est
moi,
pas les jambes interminables.
Ouais, c'est ça. Moi, je suis 1m70, je suis déjà une géante, hein, pour...
C'est clair. Donc, un air glacial, un air typiquement impressionnant, qui est renforcé en plus par une marque physique que je peine un peu à dissimuler, qui se trouve un peu à la commissure de mes lèvres. Vous voyez deux cicatrices, comme ça.
Joker.
Qui vous font penser un peu à ce qu'on appelle un sourire de l'ange. Voilà, à part ça, je suis très mystérieuse quant à mon passé.
D'accord. On va s'intéresser à ton présent, du coup. Mm-hmm. Nous sommes samedi soir. Mm-hmm. Et comme tous les samedis soirs, tu récoltes le loyer dans une de tes nombreux appartements.
Tout à fait. Il se trouve que je suis une gérante d'appartements sur Airbnb, dans la ville de Kiev. Donc ça, c'est une façade, hein, en apparence. Dans les faits, ça cache ma véritable profession de marchande de sommeil. Hein. Qui exploite la misère d'autrui, et notamment des minorités, je ne le cache pas. Pour combler un complexe d'infériorité, finalement, je suis une femme.
Non.
Voilà, j'ai au fil de mon expérience, nourri un petit réseau. Donc, là, je récolte un petit peu les loyers. Là, il se trouve que voilà, je pars avec un ami à moi, une sorte d'armoire à glace.
Voilà, ce que j'allais te demander.
Voilà, ouais. Boris. De son prénom.
Ça arrive que ça dérape et...
Ça arrive que ça dérape et là, ça fait déjà quelques semaines que la famille que je vais voir ne m'a pas donné le loyer.
Ça fait exactement 2 mois.
Ouais, ça commence
et
à
le mois dernier, ça s'était très mal passé. Mmh. Ils avaient fait un scandale et vous avez failli en venir aux mains.
Oui.
Donc t'avais donné une dernière chance, c'était pas dans ton habitude.
Non mais je suis quelqu'un de respectable, j'en viens jamais aux mains. Par contre Boris, il se trouve qu'il a peu de patience.
Et, oui.
Et comme il me devait un petit service, voilà.
Donc, exactement, tu avais prévenu que tu donnerais plus de chance, donc tu t'apprêtes à recevoir ton loyer.
Tout à fait.
Donc tu toques à l'appartement, tu te fais ouvrir par une femme, donc immigrée. Tu sais qu'elle vit avec son mari et ses 5 enfants, et tu les entasses dans 10 mètres carrés.
Oui.
Voilà, donc ils ont des lits superposés, presque pas de place, ils n'ont pas de salle de bain. Enfin voilà, ça va, comment tu te sens après?
C'est ma formule économique.
Voilà, c'est ça.
Voilà.
Attends, s'il y a des lits superposés, chacun un lit, ça va quoi.
les deux petits dorment dans le même lit, enfin ils s'arrangent quoi.
Ah, avec les parents, oui.
Ça va. En tout cas, tu sens qu'ils sont très tendus.
Mm.
Voilà. Comment tu les abordes?
Très courtoisement. Je me remets un peu à leurs souvenirs, à leurs bons souvenirs. Voilà, je me permets d'entrer dans ma propriété finalement. Et je viens leur rappeler que ça fait déjà 2 mois que il est temps un petit peu de passer à la caisse, j'ai envie de dire.
Ouais, donc là, tu vois que y a le mari qui prend la parole et il te dit il a perdu son emploi il y a quelques mois, il a du mal à en retrouver, c'est difficile de joindre les deux bouts, il doit nourrir les enfants, ça a l'air vraiment très dur pour eux, quoi.
Mmh.
Il essaie de t'apitoyer en expliquant leur situation.
Mmh. Je lis mes notes pendant ce temps.
Ouais, tu lis tes notes, ok. Tu vois qu'il y a un petit qui se met à pleurer.
J'aime pas.
T'aimes pas?
Mettez-le sur le palier parce qu'il n'y a pas d'autres pièces. Mettez-le sur le palier s'il vous plaît.
La mère refuse.
La mère refuse. Ok, je regarde Boris d'un air entendu. Boris qui se met tout de suite à le prendre. Et moi je lui dis, mais il n'y a pas de problème, messieurs, dames. Si vous manquez de travail, moi je peux vous en donner. Il n'y a aucun problème. Boris, vous pouvez prendre ce petit. Comment s'appelle-t-il? Je ne comprends pas. Donc il prend le petit et il l'entraîne avec lui sur le palier.
Voilà. Ouais, alors la mère est vraiment... bah, elle est en pleurs et en fait elle en vient aux mains, elle frappe Boris qui ne bronche pas.
Bah non, ça lui fait rien, il est par gifle, hein, Boris. moi je lui dis, écoutez, c'est simple, si vous ne me donnez pas mon dû, si vous n'êtes pas fichu de trouver un travail, bah, votre enfant en trouvera à votre place, il n'y a aucun problème.
C'est horrible.
C'est horrible. C'est horrible. Alors tu leur proposes quoi concrètement?
Je leur propose de récupérer leur enfant.
Ouais.
Contre quoi ils peuvent encore avoir un petit loyer de 2 semaines.
Oh, 2 semaines, attends.
Pardon, vous êtes qui, vous?
La voix de ta conscience.
Ça fait longtemps qu'elle est morte.
Ok.
Allez, 3 semaines, je fais un geste.
Ok, ben on va faire un jet pour voir si t'es assez intimidant, si tu leur fais assez peur pour qu'ils acceptent.
D'accord.
Donc j'imagine que c'est social complètement et tu peux mettre des bonus.
Oui, bah je peux peut-être profiter de mon réseau mafieux de Kiev.
Ouais, parce que.
En la personne de Boris.
Ah, c'est Boris qui va intimider quoi.
Qui fait office de. Voilà.
Ça marche.
Et c'est parti. Ça fait du
13. Hein.
14. Plus c'est bon. Mon social.
Ouais.
C'est du 15.
Eh ben ok. Bah, tu es. Enfin, Boris est terrifiant.
Oui.
Vraiment, dans ses yeux, on sent qu'il a déjà tué des gens. C'est écrit dans ses yeux. Et c'est vrai que la mère, elle est désemparée en fait, mais en même temps, elle est terrifiée. Elle est... Enfin, le père aussi, enfin, tout le monde est terrifié.
Voilà, je vois qu'on se comprend bien.
Voilà.
Je vais vous laisser. Profitez de votre nuit. Et à dans 3 semaines.
Tu fermes la porte et t'entends des sanglots. Ils sont dévastés.
C'est désagréable, je pars vite.
Et au moment où tu fermes la porte, un flash lumineux. Et Boris te voit disparaître.
C'est couillon ça.
Samantha.
Ouais.
Bon bah j'espère que tu vas contraster avec le personnage de Yohan. Ça serait bien. Qui joues-tu?
Alors moi je m'appelle Fabien Bartoli. comme à mon accent l'indique, je vais de Marseille.
Ah.
Donc du coup moi je suis en fait un ancien agent de la brigade des stupes.
Alors attention.
Non mais
ça c'est pas écrit sur ta tête.
Non oui c'est pas écrit.
Donc la question c'est qu'est-ce que voient les gens, qu'est-ce que tu dégages.
Physiquement donc j'ai 38 ans voilà donc quarantaine pratiquement. J'ai l'air un peu aigri, barbu, jean délavé, vieux t-shirt, une paire de lunettes de soleil. J'ai même des vapeurs d'alcool un petit peu, même à 9h du matin.
Des vapeurs de pastis.
Ah, c'est la pastaga, ça n'atteint pas. Et là, actuellement, je suis reporter pour Brut. Voilà, donc je voyage, je me déplace souvent pour dénoncer des inégalités, des complots politiques. Voilà.
Ok. Cool. Bah, quand même, c'est fou parce que je vous ai demandé de choisir n'importe quel humain sur la planète. Et Samantha, t'as fait un Marseillais, quoi.
C'est le
sang. Abandonné.
T'as pris ce que tu connaissais. Ça va être facile à jouer.
Ok, eh bien, te voilà, samedi soir. Donc, tu travailles sur un reportage pour Brut. Tu as réussi avec tes anciens contacts, à la fois de la. Donc, tu bossais chez qui, pardon?
Ouais, quand j'étais dans la brigade des stupes.
Ouais, chez les stupes, oui, et voilà. Aussi, t'avais fait une mission d'infiltration. Donc, t'as beaucoup de contacts en fait dans ce milieu, et t'as réussi à avoir une interview exclusive avec un membre du Vorivé Zarconier.
D'accord, je sais rien. C'est,
c'est une mafia de l'Est. Qui s'est implanté beaucoup en France et dans d'autres pays.
Je connais, oui.
Ouais, ça se prononce comment?
Des collègues.
Bah, je crois qu'on dit Vorivé Zarconier.
Non, on demande à Olga.
Olga,
comment? Mais Olga, elle est dans la lumière blanche.
Bah, vous demanderez quand vous verrez. Bref, t'as réussi à avoir cette interview exclusive, donc tu te rends sur le lieu de rendez-vous.
Ok.
C'est un genre de. Genre d'un hangar, tu vois, assez neutre, quoi. Tu rencontres ton contact, la personne, et tu l'interviews.
Ok. Lui, c'est qui par rapport à la mafia? Son rôle dans la mafia, c'est quoi?
C'est plutôt une petite frappe, en fait. En fait, en gros, c'est la mafia elle-même qui t'a contacté. En fait, ils veulent vraiment communiquer via l'interview. Ils veulent faire de la pub, quoi. Voilà, donc toi, à la fois, ça t'intéresse et eux, ça les intéresse. Et ils veulent se vendre via cette interview, tu vois.
Ok.
Donc le mec, c'est plutôt une petite frappe, mais qui est à l'aise pour discuter. Donc il va présenter, il va dire que c'est trop bien, tout ça. Et bon... Toi, t'essaies d'interviewer, j'imagine, sans juger, tu vois, comme un reporter brut. Après, je sais pas ce que t'en penses. Mais l'interview se passe bien et se termine.
Ok.
Voilà. Donc, bon, classique, tu remercies, merci, au revoir. Le mec se barre, tu traces ton chemin et alors que t'étais pas encore tout à fait sorti de l'entrepôt, t'entends de l'agitation. T'entends une voiture qui se garde de l'autre côté. Et en fait, des bruits, t'aurais pu te dire, si t'avais pas ton passif, t'aurais pu te dire ça aurait pu être n'importe quoi. Mais pour toi, ça te met la puce à l'oreille, ça te rappelle des... Peut-être un enlèvement en fait, quelque chose comme ça.
Ok, je me dirige discrètement vers les bruits, j'essaie de voir ce qui se passe. Je sors mon... j'ai un... Ah non, je vais dire j'ai un flingue, mais on va se calmer en fait, je pense.
Reporter chez Brut,
d'accord. Ouais, voilà.
Non, je AK-47 comme tout bras, c'est qu'il soit sûr.
Non, non, ok, j'ai pas de flingue. Donc, je m'approche discrètement, je longe les murs et j'essaie de voir ce qui se passe.
Voilà, bah ça y est, là tu... T'as été discrète. Parce que de toute façon, il y a trop d'agitation, je te fais pas lancer de dés, ça va. Tu vois juste une voiture garée, avec un coffre ouvert, vide. Et à un moment, tu vois un mec passer avec genre des sortes d'outils dans la main. Et ça te fait penser à des outils de torture. Enfin, des outils qui sont utilisés pour la torture.
Alors premièrement, je relève la plaque d'immatriculation.
Ok.
Voilà. J'envoie ma position GPS. Ouais, j'envoie la position GPS à mon N+1 chez Brut. Je compose le 17.
Ok. Propre.
Est-ce que j'ai les flics au bout du téléphone?
T'as un peu d'attente là. Qu'est-ce
un
que
peu
tu fais?
Ouais. Ok, c'est pas grave, j'attends que quelqu'un décroche. Okay. Moi de toute façon, je suis un petit peu en retrait.
Ok, t'attends un peu et le temps que quelqu'un décroche, tu commences à entendre des cris. Un peu étouffé, mais des cris quoi.
Je laisse le téléphone allumé. Et de mon côté, ce que je vais faire, ok. Je vais essayer de créer une distraction. Qu'est-ce que je pourrais faire pour faire du bruit, pour faire sortir les gens? Ok, je mets le feu à la caisse.
Donc ton but, c'est de mettre le feu à la caisse pour qu'ils sortent.
Ouais.
Et ensuite, tu ferais quoi?
J'espère que les flics arriveront d'ici là en fait. J'ai envoyé ma position à N+1, j'ai prévenu les flics entre guillemets.
Ok.
Et du coup, là, mon but c'est de faire une distraction pour qu'ils arrêtent de torturer la personne.
Ok, donc on va faire un jet global. Donc si tu réussis ton jet, ça marche, les mecs sortent, les flics arrivent au bon moment et on verra, enfin ils gèrent entre eux quoi.
Ok.
Si ça échoue, bah t'auras une couille quoi. Et j'ai plein d'idées pour que ça couille, donc on verra.
Voilà. Ok, ça marche.
Qu'est-ce que je peux... C'est difficulté 13 aussi.
Difficulté 13, je pense que mon avantage en tant qu'agent de la brigade des stupes fonctionne, non?
Ouais.
Ouais, ok. Et physique, ça marche ou pas là?
Non, ça on va dire intellectuel parce que c'est vraiment ton plan. Est-ce que ton plan est. Est-ce que t'as le bon timing?
Ouais, voilà.
Est-ce que t'es attentif au. Voilà.
Ok, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
C'est bien. Ok, bah tu réussis, donc t'arrives à... Tu trouves des trucs inflammables...
Ah, si on a l'habitude de cramer les caisses.
Oui,
pour la Saint-Jean.
Donc tu crames la caisse, elle explose, t'entends déjà des sirènes de police qui commencent à arriver, tu dis, oh, yes, c'est parfait, timing parfait. Les mecs sortent, ils savent pas ce qui se passe, la police n'a pas de mal à trouver le lieu avec l'explosion, donc tout est parfait, et rapidement, ils sont cernés. Mais bon, tu sais pas ce qui va se passer, parce que un flash aveuglant te fait disparaître.
Oh.
Alors de l'apéro.
Juste que j'allais prendre le pastaga, putain.
Julien.
Oui.
Qui joues-tu?
Je suis Jampa.
Jampa, juste Jampa.
Juste Jampa, le nom est trop compliqué.
Alors, quand les gens te voient, qu'est-ce qu'ils disent de toi?
Alors, qu'est-ce qu'ils voient? Eh bien, ils voient... Déjà, un moine tibétain, on va dire un peu classique, j'ai envie de dire. Évidemment, crâne rasé. Un air très impassible. Même si je suis quelqu'un de bienveillant et de bon, ça ne se voit pas forcément sur mon visage. Et j'ai quand même une assez bonne carrure, vu que je travaille dans les champs, je pratique les arts martiaux. Enfin, j'ai quand même une vie de dur labeur, donc ça se voit sur mon corps qui est, je suis bien bâti, je mesure à peu près 1m85, je fais peut-être un bon 90 kg, enfin...
Oh oui, bel homme.
Oui, une belle carrière.
Je mange pas de durée quoi.
Bah si, pourtant oui. Si.
Ok, eh bien Jampa, tu fais du Sengai Ngaro, Exactement. C'est comme ça qu'on prononce.
C'est le Senge Ngaro.
Ngaro. Donc c'est quoi le Senge Ngaro?
C'est un art martial traditionnel tibétain qui se pratiquait, enfin qui se pratique depuis de nombreux siècles, voire peut-être millénaires, je dirais. Et malheureusement, depuis les années d'oppression du gouvernement chinois en 1960, le dernier temple, on va dire, qui pratiquait de manière officielle, le Senge Ngaro, a été interdit. Et depuis, il se pratique de manière clandestine.
Eh bien, c'est ce que tu fais ce samedi soir. Tu es en plein entraînement de Ngaro, on va dire, pour aller plus vite. Comment ça se passe, tes entraînements clandestins, du coup?
Alors, on se réunit donc dans des souterrains. Par exemple, nous, on habite dans un petit temple, un peu à l'écart des grandes villes. Et dans les souterrains de ce temple, on a aménagé des pièces qui ressembleraient à des caves, en fait, hein, dans lesquelles on peut pratiquer notre noble art.
Vous êtes combien?
Là, actuellement, sur cet entraînement classique, on doit être 5 ou 6.
5 ou 6, ok. Ça marche. Eh bien, vous faites votre entraînement. Mm-hmm. Tout se passe bien. Ça fait une demi-heure environ, vous êtes chaud. Et au bout d'un moment, votre pire crainte, hein, vous la redoutez tous les jours, une descente de police chinoise. Ah, ouais. Donc les flics cernent très rapidement, en fait, enfin, toutes les sorties, vous êtes plutôt coincé. Ils défoncent la porte. Bon, ils sont armés de matraques, ils ont de l'équipement. Ça va être dur de faire le poids, quoi.
Ouais, généralement, on fait pas le poids.
Alors, c'est quoi la réaction dans ce cas-là?
Bon, bah, réaction, on va dire, malheureusement, habituée. On va se rendre, en fait, hein, parce que les autorités chinoises, ils rigolent pas. On va pas non plus chercher la baston. C'est inutile, hein. On a déjà fait de multiples reprises et ça mène jamais à rien de bon. Donc non, là, malheureusement, on va juste capituler.
Ok, bah vous rendez, ils commencent à chacun vous mettre des menottes, des trucs comme ça. Et tu vois que les flics, il y en a deux qui font un peu de zèle et qui prennent un malin plaisir à violenter le plus jeune d'entre vous. Au début, c'est juste, ils le poussent, tu vois, ils le serrent pour rien alors qu'ils se laissent faire. Au bout d'un moment, le jeune, du coup, il réagit, il se débat un petit peu, tu vois, pas méchant. Et les policiers, ils attendaient que ça, ils commencent à le frapper.
Assez délicat, hein. Et ils m'ont déjà menotté, moi, ou pas?
Non, ils sont en train.
Ah. Bon, bah, devant cette action, bah, je vais me révolter. Et bah, je vais leur... tout simplement leur demander de cesser leurs agissements.
Ah, tu sens que là, ils sont trop contents.
Ils n'écoutent pas du tout.
Non, mais si, ouais. ils t'écoutent bien. Ils sont très contents d'avoir une raison de te taper. Et il y en a un, il te donne un gros coup de matraque dans le dos.
Ok.
Il dit, ah, et en plus, ça se révolte.
Est-ce que j'ai un moyen d'éviter le coup de matraque ou je l'ai déjà pris là?
Tu peux éviter, ouais.
Bon, on va essayer d'éviter le coup de matraque.
Vas-y, alors.
De riposter.
Ok, jet de physique, t'as ton bonus d'art martial.
Alors, c'est parti. 10, 11, 12, plus 4, 16.
Ouais, c'est large. Bah, t'évites. Et là.
Parade.
Non, mais. Tu veux contre-attaquer? Tu peux. Hein.
Ouais.
Ah, ok, tu fais quoi? Ouais.
Bah, je. Hein? J'utilise l'art martial pour faire des coups.
5 points d'anzo.
Tu veux le maîtriser, lui faire mal?
Je ne veux pas le tuer, le blesser grièvement. Non. Non, en fait, le coup va servir à. Moi, me dégager et éviter le coup de matraque et le mettre au sol et me précipiter sur le policier jeune. Qui frappe le jeune.
Ouais. Tu veux faire quoi?
Le frapper. Simplement.
Faire mal.
Ouais, c'est ça, là.
Ok, bah t'as réussi, donc tu frappes.
Baston.
C'est quoi? C'est coup de pied, coup de poing, star martial?
Ça se pratique beaucoup avec les pommes.
Les pommes?
Les mains. Okay. Donc à un moment, je trouve une ouverture
dans le menton,
un bon coup de pomme dans la mâchoire, ouais. Quelque chose bien placé. Au okay. Séché.
Eh ben, tu donnes un bon coup bien placé, y a son casque qui tombe en arrière. Et là, tu vois, tous les policiers, ils se déchaînent, quoi, ils attendaient que ça.
Oh putain.
Et c'est coup de matraque sur coup de matraque, ils tapent, ils regardent même plus qui tape.
Ils se tapent entre eux.
Ils se tapent entre eux. Ouais.
Okay.
Et alors que tu vois tes amis se faire taper, mais aussi.
Riposter.
Ouais, ils donnent des bons coups et tout, mais t'as l'impression quand même, la confrontation est à votre désavantage. Un flash. Tu disparais. Tes amis se disent, bah là on est vraiment foutus.
C'est ça le nirvana. Ouais.
Du coup, ils se mettent à frapper tout le monde pour disparaître aussi.
C'est ça. Et voilà.
Ok.
Oh, c'est chaud. Putain.
Putain. Ouais. Heureusement qu'il y a Fabien, quoi.
Bah, ce qui va être drôle, c'est qu'avec dans les entraînements, on est très grimé quand on s'entraîne. On se met du noir de partout, de la boue. Enfin, c'est là quand je vais apparaître par les autres, ça va être flippant.
Tu penses au fait que t'as laissé le petit gamin se faire martyriser?
Ouais.
Ouais.
Au quoi?
Certainement buté même.
Ah bah là, ouais, ouais, là, c'est, hein, c'est chaud là.
Ouais. Moi je voulais juste que tu penses à ça pendant ton
temps. Comptez sur le gars pour vous rappeler.
C'est tous les événements tristes de votre vie.
Pensez à lui un peu.
Notre dernier personnage joué par Charline.
Alors moi, mon personnage, c'est un Américain, un Texan qui s'appelle Chester Junior Buckley 2. Alors physiquement, il est très grand, hein, donc il fait un peu plus d'1m90, c'est une armoire. Il est musclé, mais à la fois gras. Hein. Alors pour un Européen, il est obèse. Pour un Américain, il est normal. il est chauve, il a pas de barbe, un crâne d'œuf un peu. Il a la peau un peu rouge, rougie par le soleil. Il transpire souvent. Hein.
Transpire gras.
Ouais, il transpire gras, quoi. Il s'éponge tout le temps et tout, quoi. Il a plein de tatouages. Donc sur le bras gauche, il a le drapeau américain. Sur le bras droit, il a le drapeau confédéré. Il a dans le dos un énorme tatouage d'un aigle royal et sur la poitrine écrit quelque chose comme God bless America, quoi. Donc voilà, physiquement on le reconnaît comme ça. On peut aussi le reconnaître dans le sens où quand tu lui parles, si tu utilises un mot de plus de 3 syllabes, tu peux voir le vide dans ses yeux se faire, quoi. Une lueur de stupidité qui lui est vraiment propre.
Et la transpiration.
Ouais, c'est ça. Tu peux voir dans ses yeux.
C'est grudu dans Camelot.
Donc il ressemble à ça. Voilà, c'est un redneck.
Voilà. Eh bien, enchanté, Chester. Donc, Chester, on est samedi soir. En fait, t'es à la recherche de ta petite sœur, la petite dernière. Vous êtes une famille de combien?
Alors, on est 11. Donc, alors, moi je sais pas trop si je suis 8ème ou 9ème. Mes parents se rappellent plus trop. En tout, on est 11, ouais.
Ok, donc ta petite sœur, la dernière, elle est.
Elle a 13 ans là. Elle commence à avoir de la poitrine un peu.
T'as quel âge toi?
27 ans à peu près. Okay. 27, 28.
Ouais, et bien effectivement, elle commence à avoir de la poitrine et.
On la tient plus depuis un an.
On la tient plus, mais à cause de ça, il va lui arriver des problèmes. Donc tu la recherches rapidement, tu as une idée de où la trouver. Tu la trouves à côté d'un bar où traîne une bande de rednecks rivales. Et tu les avais vus un petit peu la harceler ces derniers temps.
Ouais.
Donc tu as eu la puce à l'oreille et tu t'es dit je vais aller voir.
Je vais le faire.
Okay.
Et là tu la retrouves encerclée par donc cette groupe de rednecks un peu comme toi en fait, sauf que de l'extérieur, on a l'impression que vous êtes tous pareils, mais entre vous, vous détestez, vous dites, mais ils sont complètement cons, ils sont pas du tout comme nous et tout. On sait pas ce que vous avez différent, mais bon.
On a les mêmes passions,
ouais, c'est ça. Il y en a un qui est pas assez radical, peut-être, ou je sais pas. En tout cas, tu les détestes, et là, ils commencent vraiment à embêter ta sœur.
Ok, ils sont combien?
Ils sont 5.
Ok.
Toi, t'es seul. Commence à la bousculer.
Ok.
Commence à lui arracher les vêtements un petit peu.
Ok. Alors ça va pas jusque là parce que j'ai dit avant.
Ouais.
Moi j'ai toujours mon opinel sur moi, mon petit opinel, voilà, il me sert à tout, vu que je suis aussi fermier, donc toujours besoin d'un opinel, je suis un homme de la nature aussi un peu quoi.
D'accord.
Et je bois beaucoup, je suis alcoolique, j'ai toujours une canette sur moi. Là, j'ai une grosse canette, alors c'est pas de la 8-6 aux États-Unis, c'est de la Blue Ribbon. Donc une grosse canette de 50 centilitres, je la prends et je l'éclate sur la tête du mec le plus proche.
Ok, okay, bah lance un G, on va voir ce que ça donne.
Ah voilà, on va bien s'entendre tous.
Wow.
Wow, oh, super G.
Oh, putain, j'ai fait marrant. 16, plus mon physique, 1, 17.
Ok,
plus alcoolisme. Plus.
Fermier, résistance à l'alcool.
Ouais, là, c'est un excellent score. Ben. Et ben en fait, tu l'as lancé à distance ou tu l'as lancé au contact?
Ouais, 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 contact.
Boum. Tu fais en fait tellement mal, il tombe dans les pommes d'un coup. Avant, il s'attendait pas.
C'est une
petite. Ouais. Par contre, les quatre autres lâchent ta sœur et t'entourent et commencent à te donner des coups de pied, te tabasser.
Ok.
Et en fait, je te fais pas lancer. Vous êtes 4-1, là, c'est trop chaud pour toi.
Ouais. Après, je suis tout le temps bourré, hein, donc je pense.
Ils sont, déjà au niveau. C'est les mêmes que toi.
Ils sont aussi.
qui font 1m90 et des armoires et tout.
Ouais, ouais, okay. C'est vraiment le même genre. En fait, t'en as aussi, ils sont méga maigres, mais genre, tu sais, c'est maigre résistant, quoi, vraiment.
Les maigres nerveux.
Ouais, maigres nerveux et tout.
Okay.
Et là, t'es en train de te faire. Mais vraiment défoncé. Bon, t'as déjà vécu ça, hein. Tu sais que c'est un mauvais moment à passer, mais vraiment, tu douilles. Et au moment où vraiment t'es à terre, là, t'entends un coup de feu.
Je reconnais l'arme, c'est une...
Ouais, c'est un genre de fusil de chasse.
Ouais, j'ai entendu. Ouais.
Les quatre agresseurs, du coup, se retournent. T'as le temps de regarder, t'as un œil déjà un petit peu gonflé. Avec l'autre œil, t'arrives à regarder. D'ailleurs, tu perds un point de santé, parce que tu t'es quand même fait bien frapper.
Bon, ils ont tapé dans le gras, ça va.
Ils ont tapé dans le gras, mais ils connaissent où ça fait mal. Et vous retournez et vous voyez un homme avec donc un fusil de chasse qui est au volant d'un gros break, quoi. Cet homme est un Mexicain.
Oh.
Je le dis parce que c'est important pour Chester.
C'est très important pour Chester.
Il dit en gros à tes agresseurs, laissez-le tranquille et tout, barrez-vous, je vous plombe. Là, tu vois que les agresseurs, il y en a un, il sort un flingue. Là, tu sens que la tension monte. Et les trois autres font le tour. Ils se rapprochent de la camionnette, enfin du break. Et là, tu vois que le Mexicain commence un petit peu à stresser, quoi. Il a plus qu'un coup normalement dans son fusil. Donc c'est un peu chaud. Donc la tension monte vraiment, vraiment. Et boum, les deux tirent en même temps. Tu vois que le Mexicain a tiré sur l'homme avec le flingue. Mmh. Il tombe au sol, mais il a plus de munitions. Et les trois autres lui tombent dessus. Ils escaladent son break et ils sont en train de le tabasser. Toi, t'as le temps de te remettre un petit peu sur tes pas. Et t'as deux choix. Soit tu pars avec ta sœur, soit tu fais autre chose.
C'est ce que j'allais te dire, je pars avec ma sœur. Ouais.
Ok, tu pars avec ta sœur. T'en penses quoi, frère, ça, tu t'en as rien à battre ou est-ce que quand même ça t'atteint un peu?
J'en ai rien à battre, je pense.
Rien à battre?
Ouais. Okay. Parce que c'est un Mexicain.
Parce que c'est un Mexicain.
Ouais, voilà.
Ok.
C'est-à-dire, il a les caisses mêlées de ses affaires, quoi.
Pas de soucis. Tu prends ta sœur, elle est en pleurs et vous enfuyez. Et t'entends le Mexicain se faire tabasser au fond. Et là, alors que vous êtes sauvé, un flash, et tu disparais et ta sœur se retrouve toute seule.
Toute seule, la poêle dans la forêt. Ouais. C'est bonne ambiance pour l'instant.
Ouais,
c'est un très bon personnage, ça. Ouais,
des trucs quoi. Ta vie, hein.
Elle est trop bien, cette
vidéo. Mais il était ému, attends.
Franchement, j'ai pleuré.
Moi, j'ai cru que t'allais pleurer.
La voix qui tremble.
Ah, c'est ça, j'ai la voix qui tremble.
Je sais plus quoi dire.
C'est bon, t'es bien dans le perso, là. Bouge plus.